Sermon de M. Gerald Weston, donné le 9 avril 2020, premier jour des pains sans levain. Son titre, Leçon de l'Exode. Salutations chaleureuses à vous tous. Ceci est une façon tout à fait inhabituelle de conduire des services, mais soyons reconnaissants de pouvoir nous réunir ainsi, sans quoi nous serions isolés de tout. J'espère que vous avez tous pu célébrer une merveilleuse Pâque ainsi qu'une belle soirée mémorable. Je sais que, dans certains cas, les parents ont dû célébrer ce dernier événement avec, pour seule compagnie, celle de leurs propres enfants. Cela avait au moins l'avantage de leur permettre de discuter amplement de la signification de cette soirée, une chose qui n'est pas aussi simple lorsqu'on se réunit en plus grand groupe, et que les enfants tendent à être dispersés autour d'une grande table. Certains ont donc apprécié cette situation particulière, ce qui montre que de bonnes choses peuvent parfois résulter d'une contrainte inhabituelle. J'ai reçu dernièrement un courriel plutôt intéressant d'un de nos membres de la province canadienne de l'Ontario. Cette femme écrivait, entre autres, « Avez-vous noté combien de similitudes cette Pâque particulière avait avec certaines Pâques de l'Ancien ainsi que du Nouveau Testament? Ainsi, les Israélites d'antan devaient rester dans leur demeure à cause de l'ange de la mort. Quant à nous, il nous faut rester chez nous, car la mort rôde à l'extérieur. » Puis elle ajoute, « Cette année, la Pâque a eu lieu le même jour de la semaine qu'à l'époque du Nouveau Testament, à savoir un mardi soir après le coucher du soleil. » À cela, je dois faire remarquer qu'il ne faut pas généraliser. Effectivement, cette année, la Pâque eut lieu un mardi soir. La soirée mémorable 24 heures plus tard, donc mercredi soir, et nous sommes réunis aujourd'hui, jeudi, pour observer le premier jour des pains sans levain. Cela dit, il n'est pas rare, effectivement, que la Pâque commence un mardi soir, comme ce fut le cas cette année. Ainsi, lorsque nous remontons à la première Pâque qui fut célébrée en Égypte, nous pouvons montrer qu'elle aussi fut prise un mardi soir. Puis, le lendemain, durant la partie diurne du jour de la Pâque, les Israélites se dirigèrent vers Ramsès, où ils devaient se rassembler avant de partir de là, mercredi soir, après le coucher du soleil. C'est ce que nous avons célébré hier soir. Mais comment peut-on prouver que cette première Pâque en Égypte eut lieu un mardi soir? Eh bien, il est dit dans Exode, chapitre 16, verset 1, « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. » À noter qu'une meilleure traduction serait « Ils y arrivèrent pour le 15e jour du 2e mois. » Or, ce 15e jour du 2e mois était un jour de sabbat. Ils arrivèrent donc un peu avant le sabbat pour pouvoir être prêts lorsque celui-ci débuterait. Si nous lisons le reste d'Exode chapitre 16, nous nous rendons compte que le 15e jour de ce 2e mois était effectivement un jour de sabbat, car c'est le lendemain matin qui suivit ce sabbat qu'ils allaient recevoir la manne, et cela pendant 6 jours consécutifs. Après quoi il n'y en aurait pas, parce que ce serait le sabbat suivant. C'est ainsi que nous pouvons déduire que le 15e jour du 2e mois était un sabbat. Alors, comme le premier jour de l'année religieuse, le mois de Nissan, comporte 30 jours, si nous comptons de reculons depuis le sabbat du 15e jour du 2e mois, nous en arrivons à la conclusion que le 14e du 1er mois était un mercredi cette année-là. C'était la Pâque. Et n'oublions pas que pour Dieu, un jour débute la veille au coucher du soleil, donc mardi soir selon le calendrier grégorien. Et c'est aussi un mardi soir que nous avons pris la Pâque en cette année 2020. Notez aussi que la dernière Pâque que Jésus a célébrée avec ses disciples, avant sa crucifixion, Pâque au cours de laquelle il a introduit les nouveaux symboles du pain et du vin, qui devaient dorénavant marquer la Pâque du Nouveau Testament, cette dernière Pâque de Jésus a donc aussi été célébrée un mardi soir, après le coucher du soleil, au début du 14e jour de Nissan. Donc, oui, comme le disait cette femme dans le courriel qu'elle m'a envoyé, la Pâque que nous avons célébrée cette année avait plusieurs choses en commun avec certaines Pâques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dernièrement, nos vies ont été bouleversées de manière choquante et rapide. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Il y a un mois, l'économie des États-Unis se portait à merveille. Nous avions eu un taux de chômage inférieur à 4%, peut-être même aussi bas que 3,5%. Et jamais notre économie ne s'était aussi bien portée. Certes, tout dépend à qui on prête l'oreille. Selon les rapports émis par la Maison-Blanche, tout donne à penser que notre situation économique n'a rien à envier à celle qui prévalait aux meilleures époques du passé. Lorsque le taux de chômage se situe autour de 3,5%, on peut raisonnablement parler de plein emploi. En fait, à un moment donné, il y aurait eu 7 millions d'emplois vacants parce que personne ne pouvait être trouvé pour les occuper. Et voilà que, tout à coup, nous avons un taux de chômage de 10% ou plus. Pas plus tard que ce matin, on nous annonçait que 6,6 millions de personnes supplémentaires ont été ajoutées à la liste des chômeurs. Ce chiffre doit, hélas, être ajouté aux près de 10 millions de chômeurs que nous avions accumulés au cours des deux semaines précédentes. Les choses ont vraiment évolué très rapidement. Dieu dit que lorsque ce pays s'écroulera, lorsqu'Israël tombera et que les ennuis de Jacob arriveront, cela aura lieu soudainement. À bien des égards, c'est ce qui s'est passé récemment. Tout a changé si vite. Nos vies ont été bouleversées, et ce, dans un délai étonnamment court. Pensez aux enfants d'Israël et à la façon dont leur vie a été transformée. Ils avaient été esclaves toute leur vie. Ils avaient été opprimés et réduits à une dure servitude. Et voilà qu'un homme du nom de Moïse arrive sur les lieux. Pour la plupart d'entre eux, ils ne pouvaient pas savoir qui il était. Tout au plus, certains ont peut-être entendu parler de quelqu'un qui serait parti 40 ans plus tôt, mais la majorité d'entre eux ne voyaient en lui qu'un étranger, venu de nulle part, qui se présente tout à coup au milieu d'eux. Sans tarder, il leur annonce que Dieu l'a envoyé pour les délivrer de leur servitude. Bien sûr, ils trouvaient cela excitant, mais cela les laissait tout de même un peu sceptiques. C'est pour cela qu'il s'est empressé de faire quelques miracles en leur présence, des miracles qui, aux yeux de certains, pouvaient passer pour quelques bons tours de magie, sans plus. Mais il leur en a montré quelques-uns tout de même. Puis, il s'est présenté devant Pharaon, mais celui-ci n'a pas été impressionné, d'autant plus que ses propres magiciens étaient eux aussi capables de certains tours de magie. À noter cependant que, même si les magiciens de Pharaon pouvaient produire des serpents, le serpent que Moïse produisait en jetant son bâton avalait les leurs, montrant ainsi toute la supériorité de Dieu. Néanmoins, Pharaon n'a pas été impressionné par Moïse et rejeta donc sa demande de laisser partir le peuple pour qu'il aille adorer Dieu au désert. Non seulement cela, mais le voilà qui cesse de leur fournir la paille dont ils avaient besoin pour fabriquer leurs briques, les enjoignant de se la procurer eux-mêmes, tout en fournissant chaque jour la même quantité de briques qu'auparavant. Au lieu de s'améliorer, la vie des Israélites venait ainsi d'empirer du jour au lendemain. Ensuite, nous avons les fléaux qui se sont abattus sur la nation égyptienne. Les trois premiers ont frappé les Israélites tout comme les Égyptiens. Lorsque ces fléaux furent prêts d'arriver à leur fin, voilà qu'arrivait la Pâque et le moment de la libération des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Cette nuit de la Pâque fut pour le moins un événement sinistre, avec quantité de pleurs et de lamentations qui venaient de partout. Combien de temps a-t-il fallu pour que ces 10 fléaux soient déversés? Il est difficile de le savoir avec certitude. Certaines sources juives disent que cela s'est étendu sur une période d'un an. Selon Exode, chapitre 7 et le verset 7, nous savons que Moïse avait 80 ans lorsque lui et Aaron se présentèrent devant Pharaon. Quant à son frère Aaron, il en avait 83. On ne s'y tournera pas, mais vous pourrez lire dans Deutéronome 34, verset 7, que Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut. Nous savons par ailleurs que les enfants d'Israël ont dû errer dans le désert pendant 40 ans. Lorsque vous tenez compte de tout cela, il est clair que ces fléaux ne se sont pas étendus sur une période de temps dépassant un an, probablement même moins. Plusieurs sources pensent que ces fléaux ont été déversés en 4 ou 5 mois, donc à un rythme plutôt rapide. L'intervalle de temps entre les différents fléaux était donc relativement court. La vie des personnes impliquées fut donc bouleversée en très peu de temps. Les disciples de Jésus ont également vu leur vie bouleversée en très peu de temps. Si nous considérons par exemple le livre de Jean, au chapitre 12 et au verset 1, nous lisons Jean 12, verset 1, « 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui l'avait ressuscité des morts. » C'était 6 jours avant la Pâque. Puis, si nous continuons au verset 12, nous lisons Jean 12, verset 12 à 16, « Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Jésus est donc venu à Jérusalem, et cet événement a été appelé l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Cela s'est passé environ 5 jours avant la Pâque. Pourtant, seulement quelques jours plus tard, après que divers événements se soient produits, après qu'il se soit assis sur le mont des Oliviers et ait parlé à ses disciples de prophéties à propos des événements à venir, et après toutes les autres choses qui eurent lieu durant la courte semaine dont il est question ici, nous le voyons qui célèbre la Pâque avec ses disciples. Inutile de dire que cette Pâque a dû revêtir un caractère inhabituel pour eux, et il leur parlait de choses qu'ils avaient du mal à comprendre. Néanmoins, il la célébrait avec eux. Puis, après avoir chanté un cantique, comme nous l'avons fait l'autre soir, ils se sont rendus au Mont des Oliviers, dans le jardin de Gethsémani. C'est là qu'il fut arrêté et mis en détention. Plus tard, cette nuit-là, il fut battu brutalement. Le lendemain, à 9 heures, il fut crucifié et il mourut finalement à 3 heures de l'après-midi. En fin de compte, on le mit dans un sépulcre juste au moment où le soleil se couchait. Ainsi, beaucoup de choses se sont passées en très peu de temps. On le voit d'abord en compagnie de ses disciples, puis il fait son entrée triomphale dans Jérusalem, assis sur un ânon. On a alors l'impression qu'il est accepté de tous, mais voilà que seulement quelques jours plus tard, il est mort, laissant tout le monde dans un état de choc. Lorsque vous pensez à ce qui nous est arrivé, à la façon dont nos vies ont été bouleversées au cours du dernier mois, comprenez que nous ne sommes pas les premiers à faire une telle expérience. Des millions, voire des milliards de personnes ont pareillement dû se rendre à l'évidence que leur vie pouvait ainsi brusquement être bouleversée. Pour nous, comme pour les enfants d'Israël, et comme pour les disciples de Jésus, la Pâque ne représentait pas une fin en soi, mais un commencement. Il est important de le comprendre. Nous considérons souvent le baptême comme une fin en soi. Je crois que les gens, particulièrement les nouveaux convertis, s'imaginent que s'ils pouvaient juste être baptisés, qu'alors tout irait bien, qu'ils auraient réussi. Non, le baptême n'est en fait qu'un début, ce n'est que le début d'une nouvelle vie en Christ. À présent que la semence de Dieu a été placée en nous, nous pouvons commencer ce processus qui nous permettra en définitive de naître dans la famille même de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire une étude rétrospective à propos des pérégrinations d'Israël vers la terre promise et nous allons voir quelles leçons on peut en tirer. Si vous voulez un titre pour ce sermon, le voici, « Leçons de l'Exode ». Nous verrons quelles leçons on peut en tirer et l'histoire nous enseigne que nombreux sont ceux qui ont oublié ces leçons, pourtant simples, que nous répétons d'année en année à pareille époque de l'année. De fait, je ne saurais vous dire combien de sermons j'ai entendus, ni combien de sermons j'ai donné moi-même à propos des leçons qui peuvent être tirées de l'Exode. Ces leçons peuvent varier d'une année à l'autre, mais elles couvrent essentiellement les mêmes sujets. On peut considérer l'histoire des enfants d'Israël, ce qui leur est arrivé et combien d'entre eux ont fini en tant que cadavres dans le désert. On peut considérer l'Église du Nouveau Testament et constater qu'elle a connu un énorme déclin, sitôt après le 1er siècle de notre ère. On peut considérer notre 20e siècle, et noter ce qui est arrivé à l'Église de Dieu. On s'étonnera alors, en voyant le nombre de gens que nous y avions côtoyés au fil des années, et à ce qui est advenu à la majorité d'entre eux qui ont abandonné. Tout cela doit nous convaincre que le baptême n'est qu'un début. Pourtant, bien que nous répétions ces leçons d'année en année, les gens ne semblent pas comprendre. Ils oublient ces leçons et deviennent ainsi la proie de ces choses contre lesquelles Dieu les avait mis en garde. Il est donc impératif que nous revoyions ces leçons année après année. Revenons au livre de l'Exode, au premier chapitre. Nous ne consacrerons pas beaucoup de temps au livre de l'Exode aujourd'hui, seulement un peu. Commençons à partir d'Exode chapitre 1, verset 13. Exode chapitre 1, verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Verset 14. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'est avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Ils menaient donc une vie très dure, et tous ceux qui ont travaillé avec du béton et des briques peuvent vous confirmer que c'est là un travail très dur. Je n'en ai pas fait d'expérience personnellement. J'ai fait du travail manuel cependant. Ainsi, il m'est arrivé un été de couper des arbres dans l'état d'Oregon, et j'ai fait quantité d'autres choses au fil des ans, mais je n'ai jamais travaillé dans le béton. Je peux comprendre, par contre, que c'est là un travail exténuant, un travail qui est très dur sur le dos. Les enfants d'Israël devaient donc travailler en tant qu'esclaves sous l'autorité des Égyptiens, et ceci leur faisait la vie dure, selon le verset 14. Puis au verset 15 et 16, nous lisons « Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chipra et l'autre Pua. Il leur dit « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » L'ordre de Pharaon ne pouvait pas être pris à la légère, et quiconque refusait de s'y plier risquait la mort. Ce que nous lisons ici peut s'avérer très instructif lorsque nous examinons d'autres circonstances ou d'autres situations que la vie peut parfois nous réserver. Par exemple, si vous aviez vécu en Europe sous le régime nazi, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, qu'auriez-vous fait si on avait frappé à votre porte alors que vous cachiez quelqu'un ou que vous protégiez quelqu'un chez vous? Eh bien, voyez quelle fut la réaction des sages-femmes. Verset 17. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Bon, nous voyons ici que leur réponse n'était pas tout à fait conforme à la vérité. Verset 19. Les sages-femmes répondirent à Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » On pourrait ici spéculer que les sages-femmes étaient peut-être des Égyptiennes, du fait qu'elles emploient l'expression « les femmes des Hébreux », mais c'est loin d'être prouvé. Toujours est-il que le verset 20 poursuit, disant « Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. » Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Elles furent donc bénies pour avoir osé braver l'ordre de Pharaon, sauvant ainsi la vie des petits garçons israélites. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Combien d'enfants israélites ont ainsi été noyés dans le fleuve? Difficile de le dire. Mais il est certain qu'un bon nombre d'enfants de sexe masculin ont ainsi été jetés dans la rivière. Vous savez, ce n'est probablement pas une coïncidence si le premier fléau à s'abattre sur l'Égypte ait été de transformer l'eau du Nil en sang. Dieu aurait ainsi puni les Égyptiens pour avoir versé le sang innocent de tant de petits garçons israélites en les noyant dans le Nil. En plus de ce premier fléau, l'eau du Nil qui devient du sang, 8 autres fléaux allaient suivre. Finalement, il y eut la Pâque, le 10e fléau, suivi de la soirée mémorable. Quant aux enfants d'Israël, ils sortirent la main levée. Notez à cet égard ce qui est dit dans Exode 14, verset 8. Exode chapitre 14, verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. En d'autres mots, cela veut dire qu'ils sortirent avec assurance, faisant même preuve d'audace. N'empêche que, lorsqu'ils s'aperçurent que les Égyptiens les poursuivaient, avec les chars de Pharaon et toute son armée, ils ne tardèrent pas à perdre cette belle assurance. Notez-le, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, verset 11, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ?» Pensez à tout ce qu'ils venaient de vivre, à la mort des premiers-nés en Égypte, et à la façon dont Dieu s'y était pris pour les faire passer en quelques mois seulement de leur état d'esclavage à celui d'homme libre. Pourtant, malgré tout cela, n'avait-il pas perdu en un clin d'œil toute cette confiance et cette audace, sitôt qu'ils virent l'armée égyptienne qui les poursuivait? Poursuivons, au verset 11. « Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Il est tout de même étonnant que notre nature humaine puisse opérer un pareil volte-face en si peu de temps. Nous constatons qu'ils ne cessèrent pas d'avoir d'autres problèmes, même après que Dieu les eut fait traverser la mer Rouge. L'événement suivant. Oui, cette traversée de la mer Rouge, à sec, était certainement le plus grand des miracles qui puissent être imaginés par un être humain. C'est incroyable ce qui s'est produit là-bas jadis. Certains d'entre vous ont peut-être récemment revu le film Les Dix Commandements. Il revient souvent à l'écran à cette époque de l'année. On y voit comment la mer se divise, même si l'on ne peut pas être sûr que les choses se soient effectivement produites ainsi. Assurément, le spectacle qui s'offrit ce jour-là aux enfants d'Israël ne pouvait en aucun cas se comparer à celui qu'ils auraient vécu en traversant une simple mer de roseaux peu profonde. En effet, comment les Égyptiens auraient-ils pu se noyer dans une nappe d'eau de seulement quelques pieds d'épaisseur? Dans le cas présent, lorsque les eaux de la mer Rouge revinrent sur les Égyptiens, ceux-ci furent littéralement écrasés par elles avant de se faire engloutir. Mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils ne perdent à nouveau foi et confiance. Voyez Exode chapitre 15, verset 23. Exode 15, verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pour ça que ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ? » Bon, ils ont donc eu soif. Cela dit, quand on y pense bien, n'avons-nous pas tendance à nous plaindre, nous aussi? Soyons honnêtes avec nous-mêmes, et repentons-nous de certaines des choses dont nous nous plaignons. Dans notre cas, ce ne sera peut-être pas parce que nous manquons d'eau, et que nous nous trouverons dans un désert. En ce qui concerne les Israélites d'antan, ils étaient arrivés en un endroit où il y avait de l'eau, mais elle était amère, imbuvable, et cela alors que leurs réserves d'eau commençaient à s'épuiser. Il était donc facile de comprendre le sujet de leur inquiétude, même s'ils avaient été témoins de tous ces miracles que Dieu leur avait montrés récemment. Comparez cela aux différentes raisons pour lesquelles nous nous plaignons de nos jours. On se plaindra en arrivant à un magasin parce qu'il est déjà fermé. On rouspétera à cause du prix de l'essence. Nous ne manquerons jamais d'occasion de nous plaindre. Cela fait partie de notre nature. Nous sommes comme des enfants qui se plaignent pour un rien. Je me promenais l'autre jour quand je vis passer des parents avec un enfant dans une poussette. Leur petit garçon criait à tue-tête. Quand j'ai croisé le regard des parents, ceux-ci se sont contentés de répondre « La vie peut parfois être dure. » Je suis témoin de pareilles scènes assez souvent, et c'est pourquoi lorsqu'il m'arrive maintenant de voir un petit enfant qui pleure, je le regarde et lui dis « Courage, ça pourrait être pire, tu sais. » Ce n'est pas toujours ce qu'ils veulent entendre, ni comment ils voient les choses. Et nous, n'agissons-nous pas comme de petits enfants qui se plaignent sans arrêt? Vous savez, et nous le verrons sous peu, Dieu ne se réjouit pas lorsqu'il voit une telle attitude. Mais c'est là l'attitude que le peuple au désert avait manifestée. Ils avaient de bonnes raisons de se plaindre, direz-vous. Mais est-ce bien le cas? Pas vraiment, s'ils avaient fait confiance à Dieu. Ajoutons cependant pour leur défense que ceux qu'ils vivaient à cette époque-là étaient autrement plus inquiétants que les problèmes auxquels nous sommes confrontés à l'heure actuelle. Dans Exode chapitre 16, verset 1, nous lisons Exode chapitre 16, verset 1 « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. » J'ai déjà mentionné ce point précédemment. Verset 2 « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Dieu s'est montré incroyablement patient envers eux. Il leur a donné des cailles ce soir-là, après le coucher du soleil. Et il était clair que c'était juste après le sabbat, vu que le lendemain matin serait le premier de 6 jours durant lesquels ils allaient recevoir de la manne. Donc, encore une fois, au crépuscule, après le coucher du soleil, il leur a fait venir des cailles, leur donnant ainsi beaucoup de viande à manger. Quant à cette manne qu'il allait commencer à leur donner dès le lendemain, elle continuerait de leur être fournie pendant les 40 ans à venir. Dieu se montrait très patient à leur égard, très attentionné, tout comme un parent qui voit un petit enfant qui se plaint de quelque chose. Mais il y a des limites à tout, et je me souviens de cette fois où mon père m'avait dit « Écoute, arrête de pleurer maintenant, sinon je vais finir par te donner une bonne raison de pleurer. » C'est ainsi que Dieu a opéré avec Israël. Il a patiemment toléré leur jérémiade pendant un certain temps, après quoi il attendait d'eux qu'ils changent d'attitude, qu'ils s'assagissent. Mais quand ils ne l'ont pas fait, il a bien fallu qu'ils y mettent un frein. Et il en sera de même avec nous. Allons maintenant à Exode chapitre 17, verset 1. Exode 17, verset 1. « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. » Ce n'était pas la première fois que cela leur arrivait. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Bon, la première fois qu'ils avaient manqué d'eau, Dieu n'avait pas manqué de leur en accorder, et il ne manquera pas de leur en fournir une fois de plus, mais on aurait pu espérer qu'ils aient retenu une leçon de la situation précédente, mais ce n'était pas le cas. Pourtant, la fois d'avant n'était pas si loin en arrière, pas beaucoup plus qu'un mois, mais déjà, ils en avaient oublié la leçon. Continuons, verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. » Verset 6. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel, est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» Ce qui s'était passé à Massa et Meriba était un incident marquant dans la vie des enfants d'Israël lors de leur sortie d'Égypte. Notez qu'ils n'avaient même pas encore atteint le mont Sinaï à ce moment-là. Il y eut un autre incident où Meriba fut mentionné. Cela se trouve dans Nombre, chapitre 20. Nombre, chapitre 20, verset 13. Ce sont les eaux de Meriba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Revenons maintenant au verset 10. Nombre 20, verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ?» Ceci avait eu lieu bien plus tard, et on les voit toujours inquiets au sujet de leur approvisionnement en eau. Moïse monte alors sur un autre rocher. Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Moïse s'était alors mis en colère, disant, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ?» Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, autrement dit, parce que vous ne m'avez pas accordé le crédit pour cette eau que je vous prodiguais, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Meriba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Toujours dans Nombre 20, mais au verset 24, nous lisons, Nombre 20, verset 24, « Moïse va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Meriba. » Tout cela est lié donc. C'était devenu une source de conflit non seulement pour les enfants d'Israël, mais aussi pour Aaron et Moïse, qui se virent refuser l'accès à la terre promise. Aucun d'eux n'allait pouvoir entrer dans la terre promise à cause de cet incident particulier. Ainsi, aux yeux de Dieu, par leurs actes irréfléchis, Moïse et Aaron avaient franchi un point de non-retour. Voyons maintenant Nombre, chapitre 27, verset 14. Nombre 27, verset 14. « Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. » Ce sont les eaux de contestation à Kadès dans le désert de Tsin. Ce fut donc à plus d'une occasion que le nom de Meriba est associé à une contestation. Le psaume 95 contient aussi une référence à cet incident. Voyons-le au verset 6 et 7. Psaume 95, versets 6 et 7. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est berger, le troupeau que sa main conduit. Oui, frères et sœurs, nous sommes les brebis de Dieu, les agneaux avec lesquels il travaille. Et c'est là une grande bénédiction. Et j'espère que nous apprécions l'appel que Dieu a lancé à chacun de nous. Et Dieu a appelé chacun d'entre nous séparément. Pour certains, il va les appeler par l'intermédiaire d'un parent. Pour d'autres, il va les appeler directement du monde. Après quoi, Dieu ne cessera pas de travailler avec nous, et nous ne devrions jamais prendre cela pour acquis. À la fin du verset 7, il nous exhorte, disant, « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix !» Poursuivons, versets 8 à 11. Psaume 95, versets 8 à 11. N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, « C'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. » Aussi je jurai dans ma colère, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Nous pouvons voir que Psaume 95 cite une grande partie de ce qui est dit dans Exode chapitre 17. Mais notez que Psaume 95 termine au verset 11 par ces mots, « Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Cela nous amène à un autre passage de l'Écriture qui se trouve dans le livre aux Hébreux. Passons donc au livre aux Hébreux pour nous situer un peu dans le contexte avant d'en arriver à ce passage particulier qui nous intéresse. Ainsi, dans Hébreux chapitre 1, verset 1, nous lisons Hébreux 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. On voit ici que la référence au Fils est en fait une référence à Jésus-Christ, notre Créateur. C'est lui qui était le Dieu de l'Ancien Testament. De ce fait, il était supérieur à tout être angélique, quel qu'il soit. Puis, si nous allons à Hébreux chapitre 2, nous lisons au verset 6, Hébreux 2, verset 6, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Le chapitre 1 débute donc en parlant de la grandeur de Christ. Puis le chapitre 2 mentionne la raison pour laquelle nous sommes nés. À ce propos, je vous recommande de lire ou de relire notre brochure intitulée « Votre ultime destinée ». C'est une brochure formidable, merveilleusement encourageante et qui nous aide à comprendre ce que Dieu fait à travers nous et ce qu'il a en tête pour vous et moi. Et toutes ces épreuves que nous traversons ne sont absolument rien en comparaison de ce qu'il a en tête pour nous. Ainsi, lorsque nous passons par diverses épreuves, n'agissons pas à la manière de ce petit enfant qui, après être tombé, se met aussitôt à pleurnicher, même s'il ne s'est pas fait mal, mais pense qu'il s'est fait mal. Vous avez sûrement assisté à une telle scène. C'est chose courante avec les enfants. Mais qu'en est-il de nous quand nous passons par des épreuves? En ce qui nous concerne, comprenons que Dieu a l'intention de faire de chacun de nous des fils et des filles à part entière. Il nous faut donc subir une profonde métamorphose. Quand ce sera chose faite, nous ne nous comporterons plus alors comme des enfants. Nous avons de la peine à imaginer ce que cela sera, car notre imagination nous fait défaut à bien des égards. Notez que 2 Corinthiens chapitre 6 verset 18 mentionne aussi que nous serons alors pour Dieu des fils et des filles. Il en est de même avec Romains chapitre 8 qui aborde le même thème. Vous trouverez tout cela et bien plus encore dans la brochure « Votre ultime destinée ». Passons maintenant au chapitre 3 du livre aux Hébreux. Hébreux 3, versets 1 à 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. C'est celui qui devint plus tard Jésus-Christ qui a construit la maison. Il l'a, pour ainsi dire, bâti pour Moïse. Verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Poursuivons, versets 7 à 11. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, pensez à Mériba, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, pensez à Massa, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » C'est une citation directe provenant de Psaume 95. Le Psaume 95 citait donc ce qui se trouvait déjà dans Exode chapitre 17, à savoir comment les enfants d'Israël étaient entrés en contestation avec Dieu, comment ils l'avaient provoqué et exacerbé. Voici donc un avertissement pour nous qui vivons à l'époque du Nouveau Testament, afin que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. Plus loin, dans Hébreux chapitre 3, verset 12, nous lisons « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Ainsi, Paul commence par expliquer quel était le vrai problème ici. Un cœur mauvais et incrédule, et un manque de foi ou de confiance en Dieu. Les enfants d'Israël avaient les regards sur Moïse et Aaron. Ils se concentraient sur le physique, sur les défauts de Moïse. Souvenez-vous, Aaron et Myriam voyaient les défauts de Moïse, et ils étaient alors entrés en contestation avec lui. Mais c'est vraiment avec Dieu qu'ils étaient entrés en contestation. On nous met donc en garde de ne pas montrer un cœur mauvais et incrédule. Ainsi, pour Dieu, manquer de foi, manquer de confiance en lui, c'est, selon Paul, comme avoir un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché est trompe-l'œil. Parfois, il peut paraître si beau, mais il n'en est pas moins très trompeur. Ainsi, considérez deux jeunes gens, une fille et un garçon, un jeune homme et une jeune femme. Le péché peut sembler très beau à un moment donné de leur relation, mais cela est trompeur et génère des conséquences. Vous ne le comprendrez peut-être pas sur le coup, mais la conséquence se fera sentir tôt ou tard, car cela correspondra à une violation de la loi divine. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Notez que tout au long du livre aux Hébreux, Paul ne cesse de nous exhorter à nous accrocher à la vérité qui nous a été donnée et à ne pas lâcher prise. À nouveau, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Voyons la conclusion au verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Par conséquent, un cœur incrédule mène à la désobéissance. Autrement dit, lorsque nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas portés à obéir. Ainsi, une personne qui manque de foi ne va pas fidèlement payer la dîme. Elle va tricher sur la dîme. De même, une personne qui manque de foi, lorsqu'elle sera menacée de perdre son emploi à cause du sabbat ou des jours saints, va tricher par rapport à la loi divine du sabbat ou des jours saints. Un tel manque de foi se répercutera sur beaucoup d'aspects de notre vie. Hébreux 11, verset 6 ne dit pas sans raison, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Nous devons donc avoir la foi pour plaire à Dieu. Autrement, nous ne serons pas fidèles dans notre obéissance à Dieu. Veuillez à présent vous tourner vers Hébreux chapitre 4, où nous débuterons au verset 1. Hébreux chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il est question ici de la terre promise. Versets 2 et 3. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il est ici question d'un autre peuple qui doit entrer dans le repos de Dieu. Et c'est, espérons-le, vous et moi, nous qui vivrons au temps de la fin, pas seulement nous d'ailleurs, mais aussi beaucoup de nos frères qui sont partis avant la fin de l'âge et qui dorment présentement dans la poussière de la terre. Eux aussi vont alors entrer dans ce repos de Dieu. Poursuivons maintenant au verset 11. Hébreux 4, verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous sommes donc vulnérables face à Dieu, dans le sens que nous ne pouvons rien lui cacher. Puis, au verset 14 à 16, nous trouvons des mots très encourageants. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous devons donc nous présenter devant Dieu avec témérité pour réclamer ses promesses, comme M. Ames le dit si souvent. Justement, nous avons de lui cette émission télévisée dont le titre est « Réclamer les promesses de Dieu ». Par ailleurs, dans notre prochaine édition du Monde de demain, il y aura un article sur le même thème, à savoir qu'il nous faut apprendre à réclamer les promesses que Dieu nous fait, en particulier lorsque nous sommes aux prises avec des épreuves et des difficultés. Bon, à ce stade, laissez-moi vous parler brièvement de ce petit point particulier. Je ne veux pas lui consacrer beaucoup de temps, mais souvenez-vous combien de temps Moïse avait passé sur la montagne lorsque Dieu lui a remis les 10 commandements. C'était durant 40 jours, n'est-ce pas? Et que s'est-il passé? Eh bien, les enfants d'Israël se sont impatientés, se demandant ce qui avait bien pu lui arriver, et peu après, les voilà qui déjà retournent à leur pratique idolâtre en fabriquant ce veau. Et voici pourquoi je tiens à incorporer ce petit point dans mon sermon. Depuis combien de temps sommes-nous obligés de rester confinés dans nos maisons? Il me semble que cela est loin de faire 40 jours. De toute façon, cela ne nous empêche pas de sortir à l'occasion. Nous pouvons marcher et faire un certain nombre de choses. Toutefois, après un certain temps, les gens s'impatientent. On a l'impression que cela fait une éternité que nos libertés sont restreintes. Et pourtant, cela ne fait pas si longtemps. Profitons de cette expérience pour réfléchir à ce qu'ont dû éprouver les enfants d'Israël lorsque leur chef les a quittés et qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils étaient là, dans le désert, et n'ont pas tardé à retourner à leurs anciennes pratiques. Veillons donc à ne pas les imiter, et je demeure confiant qu'aucun d'entre nous ne le fera. Notons à cet égard ce qui est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 35. Hébreux 10, versets 35 et 36. « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Il y a ici une leçon dont nous pourrions tirer profit. De fait, il y a ici tant de leçons que nous pouvons apprendre des enfants d'Israël, lesquels ont manqué d'endurance, de patience et de foi, toutes des choses qu'ils auraient pu et dû apprendre, mais ne l'ont pas fait. Toujours est-il qu'ici, l'apôtre Paul met l'accent sur le fait que nous avons besoin d'endurance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Le temps passe, et ceux parmi nous qui sont plus âgés se rendent compte qu'il ne leur reste que peu de temps à vivre, et qu'avec ce coronavirus, ce temps pourrait même être encore plus court que nous le pensions. Nous pourrions aussi faire une crise cardiaque. Nous pourrions avoir un accident, même si vous êtes plus jeune. Cela ne vous met pas à l'abri d'un accident de voiture ou d'un autre type d'accident. Tant de choses peuvent se produire qui pourraient écourter notre vie. Mais le jour viendra où Christ sera de retour. Les morts en Christ seront alors ressuscités, et ceux qui seront encore en vie à ce moment-là s'élèveront avec eux dans les airs pour aller à sa rencontre. Gardez cela à l'esprit. Laissez-vous motiver par cela. Pensez à cet avenir que Dieu nous réserve, celui de pouvoir devenir des enfants de Dieu et de vivre avec lui pour l'éternité. Cela ne doit pas être oublié pendant cette existence physique que nous vivons. Nous devons regarder au-delà de cette existence physique. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Oui, le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu n'éprouve pas de plaisir quand on recule. Il veut au contraire qu'on ne cesse de progresser avec lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est là ce qu'il nous exhorte de faire. Restons donc proches de Dieu et veillons au salut de nos âmes, autrement dit de nos vies. Paul nous exhorte donc à ne pas faire marche arrière. Marchons avec ceux qui progressent avec Christ. Passons maintenant à 1 Corinthiens chapitre 10. Comment pourrions-nous parler de ce sujet sans nous référer à ce chapitre? Je vais en profiter pour vous donner 6 petites leçons qu'on peut en tirer. 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Une allusion au passage de la mer Rouge, un thème étroitement lié à l'Exode. Verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le verset 4 que nous venons de lire, de même que d'autres, prouve que Jésus-Christ était le membre de la famille divine, en présence duquel Nadab et Abihu, Moïse et Aaron, ainsi que 70 des anciens d'Israël, ont mangé sur le mont Sinaï. Ils ont alors pu voir le Dieu d'Israël, comme il est dit là. Ce n'est donc pas le Père qu'ils avaient vu, mais plutôt celui qui devint son Fils plus tard, suite à sa résurrection d'entre les morts. Le verset 5 poursuit, disant « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Il y a ici une première leçon à tirer. Nous savons que les enfants d'Israël reçurent un baptême miraculeux lorsque Dieu fendit la mer Rouge en avant d'eux, et, nul doute, ce fut quelque chose d'impressionnant. Un événement en comparaison duquel nos propres baptêmes peuvent paraître banals. N'oublions pas cependant que c'est grâce à notre baptême que nos péchés ont été pardonnés, que l'éponge a été passée sur notre mode de vie antérieur, et que, par l'imposition des mains d'un ministre de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit divin, ce qui constitue un miracle bien plus grand encore. De même, le fait d'avoir adopté ce nouveau mode de vie, celui d'un chrétien véritablement converti, n'est-ce pas, là encore, un très grand miracle dans tous les sens du terme? Évidemment, si on se limite à des miracles purement physiques, les enfants d'Israël avaient certainement vécu une expérience extraordinaire. Notez cependant que, malgré tout, ils ont échoué. Oui, ils ont échoué, et une leçon que nous pouvons dégager de cet exemple, c'est qu'un miracle s'efface vite dans l'esprit des hommes. En effet, il ne leur a pas fallu longtemps pour oublier. Ils n'avaient même pas atteint le mont Sinaï que, déjà, ils avaient oublié leur Dieu, celui qui les avait pourtant protégés de tous les fléaux qui s'étaient abattus sur les Égyptiens, celui qui les avait fait traverser la mer Rouge d'une manière miraculeuse. Oubliez aussi toutes les leçons à propos de la manne pendant 40 ans. Oubliez l'eau qu'il leur avait accordée de temps en temps, lorsque celle-ci leur faisait défaut, et bien d'autres choses encore. Dieu avait fait toutes ces choses pour eux, mais il les avait vite oubliées. Donc, première leçon de l'Exode, les miracles ne vont pas nous sauver. Toujours dans la même veine, laissez-moi vous parler de l'expérience qu'a vécu un de nos ministres au Canada. Un jour qu'il avait rendu visite à un homme qui connaissait l'œuvre, celui-ci lui avait jeté un coup d'œil furtif tout en lui demandant avec nonchalance « Croyez-vous au miracle ?»« Bien sûr !» lui a alors répondu notre ministre. Alors son interlocuteur a rétorqué « Je veux en voir un !»« Dieu vous montrera des miracles !» lui a alors répliqué notre ministre. « Non, répondit l'autre, je veux en voir un tout de suite. » Et il dit cela d'une manière peu civile. Il paraît qu'il venait de sortir de prison depuis peu. Toujours est-il que notre ministre n'a pas tardé à comprendre qu'il se trouvait en présence d'un personnage assez difficile à gérer, et, fort heureusement, il réussit à se tirer de la situation sans heurts. Oui, cet homme voulait voir un miracle ce jour-là. Mais vous savez, si cet homme avait effectivement vu un miracle, cela ne l'aurait pas sauvé. En effet, de nombreuses personnes ont été guéries à la suite d'un miracle, et certaines des guérisons les plus spectaculaires qui me viennent à l'idée quand je fouille dans ma mémoire n'ont pas pour autant gardé les gens dans l'église. Ils en sont sortis, certains devenant parfois même hostiles à l'église. À nouveau, les miracles ne sauvent pas. C'est donc une leçon que nous pouvons en tirer. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, on lit, Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et j'ai insisté là-dessus bien des fois, et je veux encore une fois insister sur ce point, à savoir que la foi est la preuve, c'est ce que dit l'Écriture. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si notre foi est fondée sur des preuves, nous n'aurons pas une foi aveugle. Nous comprenons cela. Mais notre foi doit néanmoins aller au-delà de ce que nous pouvons voir, car nous devons vivre par la foi et non par la vue. Vivre par la vue peut impliquer soit des choses effrayantes, soit de grandes choses merveilleuses comme des miracles. Mais Nous devons vivre par la foi et non par la vue. À ce propos, il serait bon ici de citer Galates chapitre 2 verset 20, le verset préféré de Dr. Meredith. Galates 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. À noter qu'ici, la traduction de Louis II n'est pas fidèle, car on devrait lire « Je vis dans la foi du Fils de Dieu » et non dans la foi au Fils de Dieu. Nous devons donc implorer Dieu pour qu'il nous donne cette foi de Jésus-Christ, car notre propre foi humaine ne suffit pas. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il est dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est lorsque nous lisons la Bible que Dieu développe cette foi en nous. Et je veux ici parler de la foi de Jésus-Christ. Et il le fait par l'intermédiaire du Saint-Esprit et en travaillant avec nous lorsque nous lisons la Bible. Ce sont donc là des choses que nous devons avoir. Ainsi, les baptêmes miraculeux ou les événements miraculeux ne nous sauvent pas. C'est de la foi dont nous avons besoin. Notez à nouveau ce qui est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Et le point suivant est que, sans foi, sans persévérance et obéissance à Dieu, nos corps pourraient être éparpillés dans le désert de ce monde. Quand vous y pensez, considérez tous ceux qui avaient été baptisés dans notre ancienne association, ou encore celle qui la précédait, à savoir l'Église universelle de Dieu. N'étions-nous pas à un moment donné plus de 150 000 personnes à la fête des tabernacles? D'accord, certains étaient des enfants, et ils n'étaient donc pas baptisés. Mais les autres, la majorité d'entre eux, sont restés en panne sur le bord du chemin à un moment ou à un autre, à moins qu'ils n'aient échoué dans une de ces associations plus ou moins farfelues qui se donnent néanmoins le nom d'Église de Dieu. Je ne veux pas dire qu'elles sont toutes égarées, mais le fait est que beaucoup d'entre elles n'empruntent plus le droit chemin. Oui, beaucoup de ces gens se sont égarés dans un désert spirituel, et s'ils ne reviennent pas dans le droit chemin, ils risquent gros. Bien sûr, nous ne sommes pas leurs juges, et nous ne savons pas combien d'entre eux avaient véritablement amorcé une phase de conversion, ni combien avaient simplement suivi d'autres personnes dans l'Église. Donc, je ne veux pas m'ériger en juge de ces personnes, mais il est clair que plusieurs milliers d'entre elles semblaient converties à un moment donné, puis elles se sont détournées de l'Église, la ridiculisant et se retournant même contre elle et ses enseignements, ce que la Bible enseigne. Inutile de dire que Dieu n'était pas content du comportement de beaucoup d'entre eux, même ceux de ces organisations dont nous faisions partie jadis en des temps meilleurs. Notez le verset 6. 1 Corinthiens 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Cela dit, convoiter, éprouver un désir déraisonnable pour quelque chose, est l'un des 10 commandements. Mais cela, Israël ne le comprenait pas. Oh, ils avaient entendu les 10 commandements, et cela leur a donné la frousse. Même Moïse avouait qu'il était tout tremblant lorsque Dieu leur fit entendre ces 10 commandements du haut du mont Sinaï, du milieu du tonnerre et des éclairs. Mais ont-ils vraiment compris? À vrai dire, ils n'ont compris aucun des commandements. La preuve, ils n'ont pas vraiment compris ce qu'était la convoitise. Dans son sermon de la semaine dernière, M. John Strain nous a encouragés à revoir chacun des 10 commandements. Ce sermon sera bientôt disponible en ligne, et nous espérons que vous l'écouterez alors, surtout si vous n'avez pas eu l'occasion de l'entendre en direct. Posez-vous la question, avez-vous encore cette mentalité qui consiste à vouloir à tout prix acquérir telle ou telle chose? Pensez-vous que, sans elle, vous seriez privé de bonheur? Croyez-vous que le but de la vie consiste à accumuler autant de biens matériels que possible? Convoitons-nous des choses qui pourraient nous nuire? Vous souvenez-vous des enfants d'Israël d'antan, lorsqu'ils avaient réclamé à cor et à cri qu'on leur donne de la viande à manger? Combien Dieu s'en était offusqué? En fait, cela ne s'était pas juste produit une fois, mais cette fois-là, il leur avait fourni des cailles. Lorsqu'ils se mirent à convoiter de la viande à une autre occasion, voyant leur désir sans frein, comment ils se gavaient de viande, il leur infligea des tourments alors même que la viande était encore entre leurs dents. Dieu n'aimait pas le comportement de ces gens, leur désir effréné pour de la viande. Verset 7. « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » En fait, cette idolâtrie s'est également traduite par d'autres actions. L'idolâtrie est l'un des deux commandements, parmi les 10, auxquels on consacre plus de temps qu'aux autres. Et il n'est pas seulement question de placer un autre Dieu en avant du Dieu véritable, mais aussi d'avoir des images, des idoles, voire même des idoles du cœur. Je crois que M. Karl Machner nous avait donné un sermon sur ce thème, et il serait bon de le rechercher, même s'il vous faut pour cela revenir plusieurs années en arrière. L'idolâtrie est assurément un problème majeur. Veuillez à présent vous tourner vers Deutéronome chapitre 12, où nous verrons le verset 8. « Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. » Deutéronome 12, verset 8, date de l'époque de la fin des 40 années d'errance dans le désert. Et il dit à propos des Israélites qu'ils continuaient à faire des choses qui leur paraissaient être justes à leurs propres yeux. L'ancienne génération étant alors presque totalement éteinte, ceci s'adresse donc à la nouvelle génération. Lorsque nous nous élevons au-dessus de Dieu, nous nous adorons nous-mêmes, et à bien des égards, nous adorons l'image de qui nous sommes ou pensons être. Nous prenons alors pour une autorité dans tel ou tel domaine. Ne nous prenons pas pour Dieu, ne nous mettons pas à sa place. Dit d'une autre façon, lorsque nous contestons la parole de Dieu, par exemple, lorsque Dieu nous enjoint de cesser de nous plaindre et que nous continuons de le faire, ou que Dieu nous dit de nous souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier, mais que nous cherchons à enfreindre ce commandement de diverses manières, ou encore lorsque Dieu nous demande d'être fidèles dans nos dîmes et que nous recherchons des passe-droits en pensant que nous en savons plus que Dieu ou que Dieu comprendra notre situation particulière, lorsque nous agissons de la sorte, nous nous mettons à la place de Dieu et pensons être capables de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Cela fait évidemment penser à Adam et Ève, quand ils ont pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'arrogeant ainsi le droit de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Combien de fois vous arrive-t-il de dire « Voici comment je vois les choses » ou « Voici ce que je pense à ce sujet » Passe encore si ce que nous pensons est conforme à ce que Dieu en pense. Cependant, souvent, et je m'inclus dans ce groupe, nous faisons Dieu à notre image plutôt que de nous efforcer de ressembler à l'image de Dieu et de voir les choses comme lui les voit. Nous voyons cela dans cette attitude qui consiste à dire « Ma vérité est aussi bonne que ta vérité », une attitude qui est si répandue dans le monde actuel. Le mode de pensée qui prévaut dans notre génération actuelle, laquelle est fortement influencée par le milieu académique et les médias, est bien différent de ce que beaucoup d'entre nous ont connu en grandissant. Nous étions tout aussi charnels, bien sûr, mais nous voyons les choses comme étant solidement établies sur une base de vérité reconnue et acceptée. On avait alors foi en des valeurs absolues, mais aujourd'hui, en cette ère postmoderne, il n'y a plus d'absolu. Saul Alinsky était un sociologue américain qui était considéré comme le fondateur du groupement d'organisateurs de communautés et le maître à penser de la gauche radicale américaine. Sa base d'opération était Chicago. C'était un radical. Dès le début de son livre intitulé « Rules for Radicals », il fait l'éloge de Lucifer et le décrit comme étant le premier radical à avoir pris la tête de l'establishment. C'est intéressant. Pourquoi est-ce important? C'est important parce qu'un certain nombre de politiciens, ainsi qu'un ancien président et la femme d'un ancien président ont été fortement influencés par Saul Alinsky. Et cela vient d'être rapporté par de nombreuses sources indépendantes. Et cette philosophie est en train d'infiltrer tout un mouvement politique dans notre monde actuel. Et quand on y pense, Lorsque quelqu'un se met à faire l'éloge de Lucifer comme étant le premier radical, on commence à discerner qui travaillait avec l'esprit de cet individu et comment pareille influence pourrait s'étendre à d'autres individus. Cela dit, la politique est une mauvaise chose, peu importe vers quel bord vous penchez. Vous n'avez qu'à observer ce qui se passe chez nous aux États-Unis en ce moment. Vous savez, Adam et Ève seraient des héros aujourd'hui, même s'ils ne seront pas nécessairement portés à faire l'éloge de Lucifer. Inconsciemment, beaucoup de gens vont faire l'éloge d'Adam et Ève parce qu'ils ont choisi de déterminer eux-mêmes le bien et le mal. On dira, ne permettez à personne de vous influencer à propos de ce qui est bien ou mal. Déterminez cela par vous-même. Ne vous y trompez pas. Adam et Ève nous ont aiguillés sur une mauvaise voie, et nous avons continué à aller dans cette direction. Passons maintenant à 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8, où il est dit, « Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. » Il est ici question d'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens 6, verset 9 et 10 mentionne des personnes qui se verront refuser l'accès au royaume de Dieu. On énumère, entre autres, la fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles avant le mariage, l'adultère, ainsi que diverses autres formes d'immoralité sexuelle. Il est dit que ces personnes ne seront pas dans le royaume de Dieu. De nos jours, les personnes âgées, et je l'ai observé dans l'Église, pensent parfois que la loi contre l'adultère, en fait pas tellement l'adultère mais plutôt la fornication, c'est pour les jeunes. Quant aux jeunes, ils pensent simplement qu'ils en savent plus que Dieu. Nous savons cependant qu'il y aura une sanction pour cela. Vous savez, de nos jours, nous sommes tellement habitués à l'immoralité sexuelle que lorsque deux personnes vont ensemble en tant que couple, du moins dans le monde, vous prenez pour acquis qu'elles vont aussi coucher ensemble. Hélas, c'est là quelque chose qui commence à se répandre même dans l'Église. Il faut que cela cesse. Je ne peux pas l'arrêter. Vous seul le pouvez. Mais il me faut en parler. Et il est temps que nous nous rendions à l'évidence que ce qui importe, ce n'est pas notre opinion sur un sujet, mais celle de Dieu. On a beau dire, voici comment je vois les choses. En fin de compte, la seule chose qui importe, c'est comment Dieu voit les choses. Après tout, n'est-ce pas lui, et lui seulement, qui peut vous ressusciter à la vie ou vous endormir pour toujours? C'est aussi Dieu qui peut bénir votre mariage ou vous priver de ses bénédictions, si vous insistez pour en faire à votre tête. Dieu dit, vous pensez que vous pouvez agir comme bon vous semble, alors débrouillez-vous avec vos problèmes. Ne comptez pas sur moi pour vous sortir du pétrin, à moins que vous ne vous repentiez sincèrement. Il importe donc de réfléchir à toutes ces choses. Notez en passant 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 qui dit « Fuyez la débauche ». Bon, revenons maintenant à 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 9 et 10. « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Notez aussi ce qui est dit dans Nombre, chapitre 21, au verset 4 à 6, car c'est relié directement aux deux versets précédents. Nombre 21, versets 4 à 6. « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. » La Bible King James dit que le peuple succomba au découragement. C'est quelque chose qui pourra arriver de temps à autre à chacun d'entre nous, moi y compris. À nouveau, le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Donc, tâchons d'éviter de murmurer et de nous plaindre. Il est vrai que ce qui est décrit ici n'est qu'un incident parmi tant d'autres, et si cela nous est relaté, c'est pour nous mettre en garde. J'ai dit que je vous donnerai 6 leçons qui peuvent être tirées de l'Exode, mais je vais à présent vous en donner 2 autres en guise de conclusion. Retournons à 1 Corinthiens 10, au verset 6. 1 Corinthiens 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ces choses sont donc données pour nous servir d'exemple. Poursuivons verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Elles sont écrites pour vous et moi, pour nous qui vivons à la fin de l'âge. On pourrait donc dire que c'est là une septième leçon, à savoir que tout ce que nous avons lu précédemment nous a été donné en exemple à vous et à moi. Finalement, au verset 12, il est dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Nous ne devons donc pas rester les bras croisés et nous reposer sur l'idée que notre avenir est assuré. Même l'apôtre Paul a dit qu'il pourrait se disqualifier s'il abandonnait la lutte. Ainsi, non seulement nous constatons que ce sont là des exemples pour nous, mais nous voyons aussi que nous ne devons pas devenir trop confiants. Nous devons placer notre confiance en Dieu. Nous ne devons pas céder à la peur. Il nous faut au contraire faire preuve d'audace. Mais, simultanément, nous ne devons pas devenir trop confiants, car il nous est toujours possible de tomber, tout comme les enfants d'Israël sont tombés dans le désert. Paul nous encourage cependant au verset 13, disant « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » C'est une promesse qu'il nous faut revendiquer, comme M. Ames a coutume de dire, une promesse parmi tant d'autres. Nous devons donc persévérer jusqu'à la fin, peu importe le temps que cela pourra prendre pour chacun d'entre nous. Comme je l'ai dit dans ma mise à jour d'hier, la vie est faite de choix. Lorsque des moments difficiles surviennent, nous pouvons considérer les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons comme étant absolument terribles et en faire une description mentale qui dépasse même la réalité. Ou bien, nous pouvons considérer les périodes difficiles comme des occasions d'apprendre, de grandir et d'accroître notre force, notre endurance et notre patience. Alors, avançons avec confiance dans la foi du Christ, la foi du Christ en nous, et poursuivons notre route vers le royaume de Dieu qui nous est promis.